Henri Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle, Livre 6, La Bulle de Rome. Chapitre 1, Élection de l'Empereur, les prétendants à l'Empire, Charles, François Ier, disposition des Allemands, la couronne est offerte à Frédéric, Charles est élu. Un nouveau personnage allait paraître sur la scène. Dieu voulait mettre en présence du moine de Wittenberg, le monarque le plus puissant qui, depuis Charlemagne, eût paru dans la chrétienté. Il choisit un prince dans la force de la jeunesse et à qui tout annonçait un règne d'une longue durée. Un prince dont le sceptre s'étendait sur une partie considérable de l'ancien monde et sur un monde nouveau, en sorte que, selon une expression célèbre, le soleil ne se couchait jamais sur ces vastes états, et il l'opposa à cette humble réformation, commencée dans la cellule obscure d'un couvent d'Erfurt par les angoisses et les soupirs d'un pauvre moine. L'histoire de ce monarque et de son règne était destinée, ce semble, à donner au monde une grande leçon. Elle devait montrer le néant de toute la puissance de l'homme quand elle prétend lutter avec la faiblesse de Dieu. Si un prince ami de Luther avait été appelé à l'Empire, on eût attribué les succès de la Réforme à sa protection. Si même un empereur opposé à la doctrine nouvelle, mais faible, avait occupé le trône, on eût expliqué les triomphes de cette œuvre par la faiblesse du monarque. Mais ce fut le superbe vainqueur de Pavie qui dut humilier son orgueil devant la puissance de la parole divine. Et tout le monde put voir que celui pour qui c'était chose facile que de traîner François Ier captif à Madrid, devait déposer son épée devant le fils d'un pauvre mineur. L'empereur Maximilien était mort, et les électeurs s'étaient réunis à Francfort pour lui donner un successeur. C'était une affaire importante pour l'Europe dans les circonstances où elle se trouvait. Toute la chrétienté était occupée de cette élection. Maximilien n'avait pas été un grand prince, mais sa mémoire était chère au peuple. On aimait à rappeler sa présence d'esprit et sa débonnaireté. Luther s'entretenait souvent de lui avec ses amis. Il leur raconta un jour le trait suivant de ce monarque. Un mendiant s'était attaché à ses pas et lui demandait l'aumône en l'appelant son frère, car, disait-il, nous descendons l'un et l'autre du même père, d'Adam. « Je suis pauvre, continuait-il, mais vous êtes riche, vous devez donc me secourir. » L'empereur se retourna à ces mots et lui dit « Tiens, voilà deux sous, va vers tes autres frères, et si chacun t'en donne autant, tu seras plus riche que moi. » Ce n'était pas un débonnaire Maximilien qui devait être appelé à porter la couronne impériale. Les temps allaient changer. De puissantes ambitions devaient se disputer le trône des empereurs d'Occident. Une main énergique devait s'emparer des rênes de l'Empire, et des guerres longues et sanglantes étaient sur le point de succéder à une profonde paix. Trois rois demandaient à l'assemblée de Francfort la couronne des Césars. Un jeune prince, petit-fils du dernier empereur, né avec le siècle et par conséquent âgé de 19 ans, se présentait le premier. Il s'appelait Charles et était né à Gand. Sa grand-mère du côté de son père, Marie, fille de Charles le Hardi, lui avait laissé les Flandres et les riches états de Bourgogne. Sa mère, Jeanne, fille de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, et femme de Philippe, fils de l'empereur Maximilien, lui avait transmis les couronnes réunies des Espagnes, de Naples et de Sicile, auxquelles Christophe Colomb avait ajouté un nouveau monde. La mort de son grand-père le mettait en ce moment en possession des états héréditaires d'Autriche. Ce jeune prince, doué de beaucoup d'intelligence, aimable quand il le voulait, joignait au goût des exercices militaires dans lesquels s'étaient distingués si longtemps les brillants ducs de Bourgogne, à la finesse et à la pénétration des Italiens, au respect pour les institutions existantes qui caractérisent encore la maison d'Autriche et qui promettaient à la papauté un ferme défenseur, une grande connaissance des affaires publiques, acquise sous la direction de Chièvre car, dès l'âge de 15 ans, il avait assisté à toutes les délibérations de ses conseils. Ses qualités si diverses étaient comme couvertes et voilées par le recueillement et la taciturnité espagnole. Il y avait quelque chose de triste dans sa figure allongée. « Il est pieux et tranquille, » disait Luther. « Je soutiens qu'il ne parle pas autant dans une année que moi dans un jour. » Si Charles s'était développé sous une influence libre et chrétienne, il eût été peut-être l'un des princes les plus dignes d'admiration dont parle l'histoire. Mais la politique absorba sa vie et flétrit ses heureuses dispositions. Non content de tous les sceptres qu'il réunissait en sa main, le jeune Charles ambitionnait la dignité impériale. « C'est un rayon du soleil qui jette de l'éclat sur la maison qui l'éclaire, » disaient plusieurs. « Mais avancez la main pour le saisir, vous ne trouverez rien. » Charles y voyait au contraire le fait de toute grandeur terrestre et un moyen d'obtenir sur l'esprit des peuples une influence magique. François Ier, roi de France, était le second des compétiteurs. Les jeunes paladins de la cour de ce roi chevalier lui répétaient sans cesse qu'il devait, comme Charlemagne, être empereur de tout l'Occident et, ressuscitant les exploits des anciens preux, attaquer le croissant qui menaçait l'Empire, pourfendre les infidèles et recouvrer le Saint-Sépulcre. Il faut prouver au duc d'Autriche que la couronne de l'Empire n'est pas héréditaire, disaient aux électeurs les ambassadeurs de François. L'Allemagne, d'ailleurs, a besoin, dans les circonstances actuelles, non d'un jeune homme de 19 ans, mais d'un prince qui a un jugement éprouvé, joigne des talents déjà reconnus. François réunira les armes de la France et de la Lombardie à celles de l'Allemagne pour faire la guerre aux musulmans. Souverain du duché de Milan, il est d'ailleurs déjà membre de l'Empire. Les ambassadeurs français appuyaient ces raisons de 400 000 écus qu'ils distribuaient pour acheter les suffrages et de festins d'où l'on devait emporter les convives. Enfin, Henri VIII, roi d'Angleterre, jaloux de l'influence que le choix des électeurs donnerait à François ou à Charles, se mit aussi sur les rangs, mais il laissa bientôt ses deux puissants rivaux se disputer seuls la couronne. Les électeurs étaient peu disposés en faveur de ceux-ci. Leur peuple, pensait-il, verrait dans le roi de France un maître étranger, et ce maître pourrait bien leur enlever à eux-mêmes cette indépendance dont les grands de ces États s'étaient vus naguère privés. Quant à Charles, c'était un antique principe des électeurs de ne point choisir un prince qui jouât déjà un rôle important dans l'Empire. Le pape partageait ses craintes. Il ne voulait ni du roi de Naples, son voisin, ni du roi de France, dont il redoutait l'esprit entreprenant. « Choisissez plutôt l'un d'entre vous, » fit-il dire aux électeurs. L'électeur de Trèves proposa de nommer Frédéric de Saxe. La couronne impériale fut déposée aux pieds de cet ami de Luther. Ce choix eut obtenu l'approbation de toute l'Allemagne. La sagesse de Frédéric et son amour pour le peuple étaient connus. Lors de la révolte d'Erfurt, on l'avait engagé à prendre cette ville d'assaut. Il s'y refusa pour épargner le sang. « Mais, lui répondit-on, cela ne coûtera pas 5 hommes. Un seul homme serait trop, » répliqua le prince. Il semblait que l'élection du protecteur de la Réformation allait assurer le triomphe de cette œuvre. Frédéric n'aurait-il pas dû voir dans le désir des électeurs un appel de Dieu même? Qui eût pu mieux présider aux destinées de l'Empire qu'un prince si sage? Qui mieux qu'un empereur plein de foi eût pu être fort contre les Turcs? Peut-être le refus de l'électeur de Saxe, si loué par les historiens, fut-il une faute de ce prince? Peut-être faut-il lui attribuer en partie les luttes qui déchirèrent plus tard l'Allemagne? Mais il est difficile de dire si Frédéric mérite d'être blâmé pour son manque de foi ou d'être honoré pour son humilité. Il crut que le salut même de l'Empire exigeait qu'il refusât la couronne. « Il faut, dit ce prince modeste et désintéressé, un empereur plus puissant que moi pour sauver l'Allemagne. Le Turc est à nos portes. Le roi d'Espagne, dont les possessions héréditaires d'Autriche bordent la frontière menacée, en est le défenseur naturel. » Le légat de Rome, voyant que Charles allait être choisi, déclara que le pape retirait ses objections et le 28 juin, le petit-fils de Maximilien fut élu. Dieu, dit plus tard Frédéric, nous l'a donné dans sa faveur et dans sa colère. Les envoyés espagnols présentèrent 30 000 florins d'or à l'électeur de Saxe comme marque de reconnaissance de leur maître, mais ce prince les refusa et défendit à ses ministres d'accepter aucun présent. En même temps, il assura les libertés allemandes par une capitulation que les envoyés de Charles jurèrent en son nom. Les circonstances dans lesquelles celui-ci saignait sa tête de la couronne impériale paraissaient au surplus devoir assurer, mieux encore que ses serments, les libertés germaniques et l'œuvre de la Réformation. Ce jeune prince était offusqué des palmes que son rival François Ier avait cueillies à Marignan. La lutte devait se poursuivre en Italie, et ce temps suffirait sans doute à la Réformation pour s'affermir. Charles quitta l'Espagne en mai 1520 et fut couronné le 22 octobre à Aix-la-Chapelle. Chapitre 2. Luther écrit à l'empereur, danger de Luther, instruction de Frédéric pour la cour de Rome, sentiment de Luther, crainte de Mélenchon, les nobles allemands pour la réforme, Schomburg, Sickingen, Ulrich de Hutten, confiance de Luther, Erasme sur Luther, Luther devient plus libre, la foi source des œuvres, ce que donne la foi, Luther jugeant ses écrits. Luther avait prévu que la cause de la Réformation serait bientôt portée devant le nouvel empereur. Il écrivit à Charles lorsque ce prince se trouvait encore à Madrid. « Si la cause que je défends, lui dit-il, est digne de se présenter devant le trône de la Majesté Céleste, elle ne doit pas être indigne d'occuper un prince de ce monde. Ô Charles, prince des rois de la terre, je me jette en suppliant aux pieds de votre sérénissime Majesté et je vous conjure de daigner recevoir sous l'ombre de vos ailes, non pas moi, mais la cause même de cette éternelle vérité pour la défense de laquelle Dieu vous a confié l'épée. » Le jeune roi d'Espagne mit de côté cette singulière lettre d'un moine allemand et n'y répondit pas. Tandis que Luther se tournait vainement vers Madrid, l'orage semblait croître autour de lui. Le fanatisme s'allumait en Allemagne. Hochstraten, infatigable dans ses efforts de persécution, avait extrait quelques thèses des écrits de Luther. Sur sa demande, les universités de Cologne et de Louvain avaient condamné ses ouvrages. Celle d'Erfurt, toujours irritée de ce que Luther lui avait préféré Wittenberg, allait suivre leur exemple. Mais l'ayant appris, le docteur écrivit à l'ange une lettre si énergique que les théologiens d'Erfurt, tout effrayés, se turent. La condamnation prononcée à Cologne et à Louvain suffisait cependant pour enflammer les esprits. Il y a plus, les prêtres de la Misny, qui avaient épousé la querelle d'Emser, disaient hautement, c'est Mélenchon qui le rapporte, que celui qui tuerait Luther serait sans péché. Voici le temps, dit Luther, où les hommes croiront rendre service à Jésus-Christ en nous mettant à mort. Ces paroles homicides devaient porter des fruits. Un jour, dit un biographe, que Luther était devant le cloître des Augustins, un étranger qui tenait un pistolet caché dans sa manche l'aborda et lui dit « Pourquoi allez-vous ainsi tout seul ?»« Je suis dans les mains de Dieu, » répondit Luther. « Il est ma force et mon bouclier. Que peut me faire l'homme mortel » Là-dessus, cet inconnu pâlit, ajouta l'historien, et s'enfuit en tremblant. Serra Longa, l'orateur de la conférence d'Augsbourg, écrivit vers le même temps à l'électeur. « Que Luther ne trouve aucun asile dans les états de votre Altesse, que repoussé de tous il soit lapidé à la face du ciel, cela me sera plus agréable que si je recevais de vous 10 000 écus. » Mais c'était surtout du côté de Rome que grondait l'orage. Un noble de Thuringe, Valentin Teutleben, vicaire de l'archevêque de Mayence et zélé partisan de la papauté, représentait à Rome l'électeur de Saxe. Teutleben, honteux de la protection que son maître accordait aux moines hérétiques, voyait avec impatience sa mission paralysée par cette conduite imprudente. Il s'imagina qu'en alarmant les lecteurs, il le déciderait à abandonner le théologien rebelle. « On ne veut point m'entendre, écrivit-il à son maître, à cause de la protection que vous accordez à Luther. » Mais les Romains se trompaient s'ils pensaient effrayer le sage Frédéric. Ce prince savait que la volonté de Dieu et le mouvement des peuples étaient plus irrésistibles que les décrets de la chancellerie papale. il ordonna à son envoyé d'insinuer au pape que, loin de défendre Luther, il l'avait toujours laissé se défendre lui-même, qu'au reste, il lui avait déjà demandé de quitter la Saxe et l'université, que le docteur s'était déclaré prêt à obéir et qu'il ne serait plus dans les états électoraux si le légat lui-même, Charles de Miltitz, n'avait supplié le prince de le garder près de lui, dans la crainte qu'en se rendant dans d'autres contrées, Luther n'agit avec plus de liberté qu'en Saxe même. Frédéric fit plus encore. Il voulait éclairer Rome. L'Allemagne, continue-t-il dans sa lettre, possède maintenant un grand nombre d'hommes savants, instruits en toutes sortes de langues et de sciences. Les laïcs eux-mêmes commencent à avoir de l'intelligence et à aimer l'écriture sainte. Si donc l'on refuse les conditions équitables du docteur Luther, il est fort à craindre que la paix ne puisse jamais se rétablir. La doctrine de Luther a jeté de profondes racines dans un grand nombre de cœurs. Si au lieu de la réfuter par des témoignages de la Bible, on cherche à l'anéantir par les foudres de la puissance ecclésiastique, on causera de grands scandales et l'on suscitera de pernicieuses et terribles révoltes. Les lecteurs, pleins de confiance dans Luther, lui fit communiquer la lettre de Teutleben et une autre lettre qu'il avait reçue du cardinal Saint-Georges. Le réformateur fut ému en les lisant. Il vit aussitôt tous les dangers qui l'entouraient. Son âme en fut un instant accablée. Mais c'était en de tels moments qu'éclatait toute la puissance de sa foi. Souvent faible, prêt à tomber dans l'abattement, on le voyait se relever et paraître plus grand au sein de la tempête. Il voudrait être délivré de tant d'épreuves, mais il comprend à quel prix on lui offre le repos et il le rejette avec indignation. « Me taire, » dit-il, « je suis disposé à le faire si l'on me le permet, c'est-à-dire si l'on fait taire les autres. Si quelqu'un a envie de mes places, qu'il les prenne. Si quelqu'un veut détruire mes écrits, qu'il les brûle. Je suis prêt à me tenir en repos pourvu qu'on n'exige pas que la vérité évangélique se repose. » Je ne demande pas le chapeau de cardinal, je ne demande ni de l'or, ni rien de ce que Rome estime. Il n'y a rien au monde qu'on ne puisse obtenir de moi, pourvu qu'on ne ferme pas aux chrétiens le chemin du salut. Toutes leurs menaces ne m'épouvantent pas, toutes leurs promesses ne peuvent me séduire. Animé de tels sentiments, Luther retrouva bientôt son humeur guerrière et préféra au calme de la solitude le combat du chrétien. Une nuit suffit pour lui rendre le désir de renverser Rome. « Mon parti est pris, » écrivit-il le lendemain. « Je méprise la fureur de Rome et je méprise sa faveur. Plus de réconciliation, plus de communication avec elle à jamais. Qu'elle condamne et qu'elle brûle mes écrits, à mon tour je condamnerai et je brûlerai publiquement le droit pontifical, ce nid de toutes les hérésies. La modération que j'ai montrée jusqu'à cette heure a été inutile. J'y renonce. » Ses amis étaient loin d'être aussi tranquilles. La consternation était grande à Wittenberg. « Nous sommes dans une attente extraordinaire, » disait Mélenchon. « J'aimerais mieux mourir que d'être séparé de Luther. Si Dieu ne nous prête secours, nous périssons. Notre Luther vit encore, » écrivit-il un mois plus tard dans son anxiété. « Plaise à Dieu qu'il vive longtemps, car les sycophantes romains mettent tout en œuvre pour le faire périr. Priez afin qu'il vive, cet unique vengeur de la sainte théologie. » Ces prières devaient être entendues. Les avertissements que l'électeur avait fait donner à Rome par son chargé d'affaires n'étaient pas sans fondement. La parole de Luther avait retenti partout, dans les cabanes, dans les couvents, dans les demeures des bourgeois, dans les châteaux des nobles, dans les académies et dans les palais des rois. « Que ma vie, avait-il dit au duc Jean de Saxe, ait seulement servi à la conversion d'un seul homme, et je consentirai volontiers à ce que tous mes livres périssent. » Ce n'était pas un homme seul, c'était une grande multitude qui avait trouvé la lumière dans les écrits de l'humble docteur. Aussi partout se trouvaient des hommes prêts à le protéger. L'épée qui devait l'atteindre se forgeait au Vatican, mais des héros se levaient en Allemagne pour lui faire un bouclier de leur corps. Au moment où les évêques s'irritaient, où les princes gardaient le silence, où le peuple était dans l'attente et où les foudres grondaient déjà sur les sept collines, Dieu suscita la noblesse allemande pour en faire un boulevard à son serviteur. Sylvestre de Chambourg, l'un des plus puissants chevaliers de la Franconie, envoya à cette époque son fils à Wittenberg avec une lettre pour le réformateur. « Votre vie court des dangers, » lui écrivait Chambourg. « Si le secours des électeurs, des princes ou des magistrats vous manque, je vous en supplie, gardez-vous de vous rendre en Bohême, où jadis des hommes très savants ont eu beaucoup à souffrir. Venez plutôt vers moi. J'aurai bientôt, si Dieu le veut, rassemblé plus de 100 gentilshommes et avec leur secours, je saurai vous préserver de tout péril. » François de Sickingen, ce héros de son siècle, dont nous avons déjà vu l'intrépide courage, aimait le réformateur parce qu'il le trouvait digne d'être aimé et aussi parce qu'il était haï des moines. « Mes services, mes biens et mon corps, tout ce que je possède, lui écrivait-il, est à votre disposition. Vous voulez maintenant la vérité chrétienne, je suis prêt à vous aider en cela. » Armut Kronberg tenait le même langage. Enfin, Ulrich de Hutten, ce poète, ce vaillant chevalier du XVIe siècle, ne cessait de parler en faveur de Luther. Mais quel contraste entre ces deux hommes! Hutten écrivait au réformateur: « Ce sont des glaives, ce sont des arcs, ce sont des javelots et des bombes qu'il nous faut pour détruire la fureur du diable. » Luther, en recevant ces lettres, s'écriait: « Je ne veux pas que l'on ait recours pour défendre à l'Évangile, aux armes et au carnage. C'est par la parole que le monde a été vaincu, c'est par la parole que l'Église a été sauvée, c'est par la parole aussi qu'elle sera rétablie. Je ne méprise point ces offres, disait-il encore, en recevant la lettre de Schombourg dont nous avons fait mention, mais je ne veux cependant m'appuyer sur aucun autre que sur Christ. » Ce n'était pas ainsi que parlaient les pontifes de Rome quand ils marchaient dans le sang des Vaudois et des Albigeois. Hutten sentit la différence qu'il y avait entre la cause de Luther et la sienne. Aussi lui écrivit-il avec noblesse: « Moi, je m'occupe des choses de l'homme, mais toi, l'élevant bien plus haut, tu es tout entier à celle de Dieu. » Puis il partit pour gagner à la vérité, s'il lui était possible, Ferdinand et Charles Quint. Luther trouva alors un défenseur plus illustre encore. Érasme, que les catholiques romains citent si souvent contre la Réformation, prit la défense du réformateur, toutefois à sa manière, c'est-à-dire en ayant l'air de ne pas le défendre. Le 1er novembre 1519, ce patriarche des lettres écrivit à Albert, électeur de Mayence et primat d'Allemagne, une lettre où, après avoir peint avec énergie la corruption de l'Église, il ajoutait: voilà ce qui a ému Luther et ce qu'il a soulevé contre l'intolérable impudence de certains docteurs. Car quel autre motif pourrait-on attribuer à celui qui ne recherche pas les honneurs et qui ne désire pas la fortune? Luther a osé douter des indulgences, mais d'autres avant lui avaient osé les affirmer avec impudence. Il a osé parler d'une manière peu modérée de la puissance du pontife romain, mais d'autres avant lui l'avaient exalté sans retenue. Il a osé mépriser les décrets de saint Thomas, mais les dominicains les mettent presque au-dessus des évangiles. Il a osé exposer ses scrupules sur la confession, mais les moines ne cessaient de s'en servir au tribunal de la pénitence comme d'un filet où ils prenaient les consciences des hommes. Les âmes pieuses étaient tourmentées de ce que dans les saintes assemblées on entendait fort peu de choses sur Christ et de ce que le sermon n'était qu'une affaire de gain, de flatterie, d'ambition et d'imposture. C'est à un tel état de choses qu'il faut imputer les paroles excessives de Luther. Tel fut le jugement d'Érasme sur l'état de l'Église et sur le réformateur. Cette lettre, publiée par Ulrich de Hutten, qui vivait alors à la cour de Mayence, fit une sensation profonde. En même temps, des hommes plus obscurs qu'Érasme se rangeaient de toutes parts autour de Luther. Le docteur Botzeimus Abstemius, chanoine de Constance, lui écrivait: « Maintenant que vous êtes devenu l'ami de l'univers entier, il faut aussi que vous deveniez le mien. Il n'y a rien dont je me réjouisse comme de vivre en un temps où les lettres divines reprennent leur antique éclat. » Et Gaspard Hédion, prédicateur à Bâle, écrivait au réformateur: « Ne vous arrêtez pas, ô libérateur, soyez vous le général et nous, nous marcherons autour de vous comme des soldats que rien ne disperse. » Ainsi, tantôt les ennemis de Luther l'accablent et tantôt ses amis se lèvent pour le défendre. « Mon navire, dit-il, flotte çà et là au gré des vents. L'espérance et la crainte y règnent tour à tour, mais qu'importe ?» Cependant, les témoignages de sympathie qu'il recevait ne furent pas sans influence sur son esprit. « Le Seigneur règne, dit-il, il est là, nous pouvons le toucher. » Luther vit qu'il n'était plus seul, ses paroles avaient porté des fruits, et cette pensée le remplit d'un nouveau courage. La crainte de compromettre les lecteurs ne l'arrêtera plus, maintenant qu'il a d'autres défenseurs, disposé à braver le courroux de Rome. Il en devient plus libre et, s'il est possible, plus décidé. C'est une époque importante dans le développement de Luther. « Il faut que Rome comprenne, écrivit-il alors au chapelain de l'électeur, que quand elle parviendrait par ses menaces à me chasser de Wittenberg, elle ne ferait qu'empirer sa cause. Ce n'est pas en Bohême, C'est au sein de l'Allemagne que se trouvent ceux qui sont prêts à me défendre contre les foudres de la papauté. Si je n'ai pas fait encore à mes ennemis tout ce que je leur prépare, ce n'est ni à ma modestie ni à leur tyrannie qu'ils doivent l'attribuer, mais au nom de l'électeur et à la prospérité de l'université de Wittenberg que j'ai craint de compromettre. Maintenant, je n'ai plus de telles craintes. On me verra avec une force nouvelle me précipiter sur Rome et sur ses courtisans. Et cependant, ce n'était pas dans les grands que Luther mettait son espoir. On l'avait souvent sollicité de dédier un livre au duc Jean, frère de l'électeur. Il n'en avait rien fait. « Je crains, avait-il dit, que cette suggestion ne vienne de lui-même. La Sainte Écriture ne doit servir qu'à la gloire du seul nom de Dieu. » Luther revint de ses craintes et dédia au duc Jean son discours sur les bonnes œuvres. C'est l'un des écrits dans lesquels le réformateur expose avec le plus de force la doctrine de la justification par la foi, cette vérité puissante dont il met la force bien au-dessus de l'épée de Hutten, de l'armée de Sickingen, de la protection des ducs et des électeurs. « La première, la plus noble, la plus sublime de toutes les œuvres, dit-il, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est de cette œuvre que toutes les œuvres doivent procéder. Elles sont toutes les vassales de la foi et reçoivent d'elles seules leur efficace. » Si un homme trouve dans son cœur l'assurance que ce qu'il fait est agréable à Dieu, l'œuvre est bonne, ne fit-il même que relever un brin de paille. Mais s'il n'y a point en lui cette assurance, son œuvre n'est pas bonne, quand même il ressusciterait les morts. Un païen, un juif, un turc, un pécheur peuvent faire toutes les autres œuvres, mais se confier fermement en Dieu et avoir l'assurance qu'on lui est agréable, c'est ce que le chrétien affermi dans la grâce est seul capable de faire. Un chrétien qui a la foi en Dieu fait tout avec liberté et avec joie, tandis que l'homme qui n'est pas un avec Dieu est plein de soucis et retenu dans la servitude. Il se demande avec angoisse combien d'œuvres il devra faire. Il court, ça et là, il interroge celui-ci, il interroge celui-là, il ne trouve nulle part aucune paix et fait tout avec déplaisir et avec crainte. En conséquence, j'ai toujours exalté la foi, mais il en est autrement dans le monde. Là, l'essentiel est d'avoir beaucoup d'œuvres grandes, hautes et de toutes les dimensions, sans que l'on se soucie nullement que la foi les anime. On bâtit ainsi sa paix, non sur le bon plaisir de Dieu, mais sur ses propres mérites, c'est-à-dire sur le sable. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 27. Prêcher la foi, c'est, dit-on, empêcher les bonnes œuvres, mais quand un homme aurait à lui seul les forces de tous les hommes, ou même de toutes les créatures, cette seule obligation de vivre dans la foi serait une tâche trop grande pour qu'il pût jamais l'accomplir. Si je dis à un malade « Aie la santé, et tu auras l'usage de tes membres », dira-t-on que je lui défends l'usage de ses membres ? La santé ne doit-elle pas précéder le travail ? Il en est de même quand nous prêchons la foi. Elle doit être avant les œuvres pour que les œuvres elles-mêmes puissent exister. Où peut-on donc trouver cette foi, direz-vous, et comment la recevoir? C'est en effet ce qu'il importe le plus de connaître. La foi vient uniquement de Jésus-Christ, promis et donné gratuitement. Ô homme, représente-toi Christ et contemple comment en lui Dieu te montre sa miséricorde sans être prévenu par aucun mérite de ta part. Puise dans cette image de sa grâce la foi et l'assurance que tous tes péchés te sont remis. Les œuvres ne sauraient la produire. C'est du sang, c'est des plaies, c'est de la mort de Christ qu'elle découle. C'est de là qu'elle jaillit dans les cœurs. Christ est le rocher d'où découle le lait et le miel. Ne pouvant faire connaître tous les ouvrages de Luther, nous avons cité quelques courts fragments de ce discours sur les bonnes œuvres à cause de ce qu'en pensait le réformateur lui-même. C'est à mon jugement, dit-il, le meilleur des écrits que j'ai publiés. Et il ajoute aussitôt cette remarque profonde « Mais je sais que, quand je me plais dans ce que j'écris, l'infection de ce mauvais levain empêche que cela ne plaise aux autres. » Mélenchon, en envoyant ce discours à un ami, l'accompagnait de ces mots « Il n'est personne, entre tous les écrivains grecs et latins, qui approchait davantage que Luther de l'esprit de Saint Paul. »